LRDA. Moi, je ne parle pour le moment que de la RFA, qui nous intéresse parce que la France n'a pas de relation fondamentale avec la RDA, si ce n'est un attaché d'affaires à Berlin-Est, puisque Berlin-Est n'est pas reconnu jusqu'au début des années 70 par les capitales occidentales. Il n'y a que les pays de l'Est, communistes, amis de l'URSS, qui reconnaissent l'Allemagne. Alors, pour dire une petite chose, c'est qu'il y a une constitution en Allemagne qui est faite après la guerre, donc en 1949, au moment où est créée la RFA, et cette RFA est un État, je lis, l'Allemagne est un État fédéral, et en effet, l'Allemagne ne s'est pas voulu centraliser. Il est interdit en Allemagne de faire un référendum, donc on ne peut pas faire de référendum en Allemagne, pour éviter qu'il y ait un homme providentiel qui arrive au profit d'une crise et qu'on rejoue le scénario hitlérien. Même si Hitler n'est pas arrivé par un référendum, il est arrivé par les élections, en quelque sorte, même s'il n'a jamais eu, en effet, de majorité. Je rappelle qu'il y a un président de la République fédérale qui est très peu pourvu de pouvoir, rien à voir avec le nôtre, donc on verra tout à l'heure. Et il y a un chancelier ou une chancelière. Ce chancelier est le Premier ministre, c'est le nom du Premier ministre allemand. Il est nommé par le président de la République fédérale parmi le parti qui a remporté les élections. Donc ça c'est clair, c'est toujours parmi le parti. Or en Allemagne, il y a en 1963, disons, deux grands partis, le SPD, social-démocrate, le CDU, CSU, ce qu'on dit CSU en Bavière, c'est-à-dire le parti chrétien-démocrate. Et il n'y a pas de parti communiste en Allemagne, de l'Ouest, et il y a un parti qu'on appelle FDP, le parti libéral. Un parti libéral va apparaître dans les années 80, un parti vert qui va jouer un rôle non négligeable en Allemagne. Et tout à fait dernièrement, depuis la réunification, il y a un parti qui s'appelle Die Linke, la gauche en Allemagne, qui est un parti tout à fait marqué à gauche et qui peut apparaître comme une sorte de Mélenchon, disons de parti de gauche allemand. Et il vient d'apparaître un parti qui s'appelle AFP, qui est un parti anti-européen qui vient d'apparaître en 2013, avant les élections, au début de l'année 2013, qui est un parti qui n'a pas fait 5% aux élections allemandes, donc il n'a pas pu avoir des représentants, mais qui est un parti d'hommes plutôt masculins, d'hommes de 40 ans et plus, plutôt cadre supérieur, et qui est peu européen, je dirais même, qui est un parti, on verra aux élections européennes, si ce parti fait plus de 5% pour être représenté. Alors ça, c'est intéressant. L'Allemagne étant un État fédéral, il y a en effet une Chambre des députés, que tout le monde connaît, qu'on appelle le Bundestag, qui est à Berlin aujourd'hui, mais qui était à Bonn quand je commence en 1963, donc qui s'est transféré une fois la réunification faite à la fin des années 90, au grand dépit des fonctionnaires allemands qui avaient leur maison, qui avaient tout construit leur carrière à Bonn, qui avaient leur réseau amicaux, il a fallu aller, bien sûr, à Berlin. Vous avez une chambre des Länder, une chambre des parlements, de cette Allemagne fédérale, qu'on appelle le Bundesrat, qui est intéressant parce que on peut avoir une majorité au Bundestag et pas de majorité au Bundesrat, c'est évident. Et on peut, en général, quand on fait une carrière en Allemagne, c'est un peu... Chez nous, être président de conseil régional n'a jamais été un tremplin pour une carrière nationale. Mais en revanche, en Allemagne, que si vous êtes président d'un land allemand et que vous êtes à la tête d'un gouvernement de l'État fédéré allemand, vous avez une chance. Par exemple, M. Schröder a été, bien sûr, lui, président de son land de Basse-Saxe. Et ça a été son tremplin politique. Ce qui est intéressant, puisque cette Allemagne, du côté français, nous sommes complètement différents. Nous sommes un État centralisé, même s'il y a eu la loi de 82, la loi de Fer sur la décentralisation, on est un État centralisé. Depuis 32 ans, on n'a pas beaucoup évolué en décentralisation. On voit que le pouvoir est toujours au niveau de l'État et très peu encore au niveau des régions. On a un président, par la Constitution de la Ve République, qui est omnipotent. qui est omnipotent, qui, j'écoutais à la radio en venant que, en effet, le nouveau gouvernement Valls a été nommé en partie par François Hollande et non pas du tout par M. Valls. C'est le président qui officiellement approuve les choix du Premier ministre, mais c'est souvent se fait le contraire, que ce soit Jacques Chirac ou François Mitterrand ou d'autres, ils ont tous fait cette même méthode, et on a un État qui ne fonctionne pas. Le Premier ministre français est un personnage qui est soumis au pouvoir du président. On connaît les divorces qu'il y a eu. Monsieur Hollande s'est séparé avec difficulté de Monsieur Hérault, tandis qu'en France, François Mitterrand a viré Michel Rocard. Il l'avait viré, Michel Rocard. Jacques Chirac a rompu avec Monsieur Giscard d'Estaing. Donc, en Allemagne, non, le chef de l'État ne peut rien faire sur le chancelier. Le chancelier, il est là pour 5 ans, à moins qu'il anticipe les élections, parce qu'il décide que les élections seront anticipées liées à une crise. Il est, bien sûr, l'Assemblée ne peut pas être dissoute par le président de la République, qui a un pouvoir purement, je dirais, emblématique dans une Allemagne qui est intéressante, parce que le président allemand, il s'appelle Monsieur Gauck aujourd'hui, G-A-U-C-K, qui est un ancien pasteur, un pasteur, et qui est né aussi en Allemagne de l'Est. Et qui est né en Allemagne de l'Est, comme Madame Merkel. Il a plus de 70 ans, c'est un personnage, j'irais même, très populaire en Allemagne, très populaire, et ce personnage, il n'a pas les mêmes, puisqu'on raconte que les parents de Madame Merkel étaient, attention, je pèse mes mots, n'ont jamais collaboré avec la Stasi ou avec le régime communiste. Mais ils n'étaient pas particulièrement hostiles. Ils n'ont jamais fait de la politique anti-RDA, puisque le père de Mme Merkel était pasteur aussi. Mais en revanche, le président de la République fédérale allemande aujourd'hui a été plusieurs fois arrêté par la police politique est-allemande. Donc il était parmi les opposants. Donc il y a quand même quelques éléments importants. Ce qui est intéressant, c'est que je rappelle aussi en introduction que ces deux pays sont différents. L'Allemagne ne fait que 357 000 km² aujourd'hui réunifiée, ce qui veut dire que quand elle était séparée, elle était inférieure à 300 000 km², c'est-à-dire la moitié de la France. Aujourd'hui, elle est à peu près les deux tiers de la France. Que ce pays, la France en fait 552 000, pour ceux qui l'auraient oublié, et nous avons quand même 115 000 km² de territoire d'outre-mer, puisque un ministre vient d'être nommé parmi les 16 ministres aux outre-mer, comme on dit. Donc, on a une population qui, aujourd'hui, tourne entre 65 et 66 millions. L'Allemagne a une population autour de 80 à 81 millions, entre 80 et 81 millions. Jusque-là, il y a des différences qui sont assez anciennes. Mais si on prend le PIB, la richesse allemande, aujourd'hui, du moins en 2013, pas en 2014, l'Allemagne en milliards de dollars, puisque c'est plus facile à comparer au niveau international, on est à 3630 milliards de dollars pour l'Allemagne et on est à 2800 pour la France. Mais si on répartit par habitant, on est au même niveau. C'est-à-dire que le français, le PIB par habitant moyen est le même en France qu'en Allemagne. C'est normal, on est moins nombreux et on a un PIB moins fort. C'est pas là la différence. La différence, elle vient dans les chiffres qui suivent. La production industrielle par rapport au PIB en Allemagne est de 25%. En France, elle est de 14%. Donc là, on voit la puissance industrielle allemande, l'industrie en France. Monsieur Montebourg aura beaucoup de boulot. Donc, la recherche-développement en Allemagne représente par rapport au PIB allemand autour de 2,8%. En France, elle représente, alors ça, 2,2%. Vous voyez qu'on n'est pas parmi les plus mauvais. Les plus mauvais sont les Italiens, les Espagnols, qui tournent en dessous d'un. Dans le commerce mondial, l'Allemagne pèse 8,3% du commerce mondial. Nous pesons 3,4%. Alors là, ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'il y a encore 5 ans, 6 ans, nous étions à 5. Et en 1914, nous étions à 5. 100 ans après, nous étions encore à 5. Et aujourd'hui, en 5-6 ans, on est descendu à 3,4. Et l'Allemagne est à 8,3. Et si je termine par ce qui est le plus probant, qui sera le but de mon travail aujourd'hui devant vous, c'est que l'excédent commercial allemand, aujourd'hui, tourne à 15 à 16 milliards d'euros par mois, 15 à 16 milliards d'excédents par mois, alors que le déficit français tourne à 5 milliards de déficit par mois. Ce qui fait sur une année 60 milliards pour la France, et ce qui fait pour l'Allemagne autour de 180 milliards d'excédents. Donc vous voyez, entre les excédents allemands et le déficit français, on a à peu près 240 milliards d'euros. Pas de francs, d'euros. Multiplié par 6,50, ça vous fait 1300 milliards de francs. 1300 milliards de francs. Donc c'est des sommes colossales, hein, on est bien d'accord. Alors cette Allemagne qui est très intéressante, parce qu'en Allemagne, il y a un scrutin, quand on vote aux élections, il y a un scrutin à deux niveaux. Le Bundestag, il est élu en partie par un scrutin uninominal à deux tours sur une personne, et une partie est élue sur scrutin de liste à la proportionnelle par parti. C'est-à-dire qu'une partie de la Chambre est formée par des hommes ou des femmes qui ont été élus parce qu'ils étaient eux, et une autre parce que vous êtes sur une liste du parti. C'est un petit peu, je pense, que la France, ce vers quoi la France tend aujourd'hui. Les réformes de la France vont arriver à ce système, sûrement, pour faire que certains partis qui dépassent jamais les 10%, mais qui sont entre 5 et 10, puissent être représentés. Et pourquoi pas, en effet, le Front National. Donc, un peu comme avait fait François Mitterrand en 1986, quand il avait instauré la proportionnelle. Donc, ce qui est important, c'est que on dit aujourd'hui, François Hollande, il est social-démocrate, et non plus socialiste. Il est social-démocrate. Ça veut dire que les Français ont été longtemps, le Parti Socialiste, le PS, créé en 69, et dont Mitterrand a pris le contrôle en 71, le PS a été longtemps un parti socialiste, marxisant. Il a fallu attendre des années 80 pour que le PS rompe avec le marxisme. En revanche, l'Allemagne, le parti SPD, le social-démocrate allemand, il a fait ce qu'on appelle la fameuse, on dit souvent dans un langage qui est devenu commun, est-ce que tu as fait ton Bad Godesberg ? Ton Bad Godesberg, B-A-D, loin G-O-D-E-S-B-E-R-G, Bad Godesberg, c'est en 59 que le SPD allemand a rompu avec le marxisme. Donc 1959. Nous, c'est à peu près, je dirais, 30 ans plus tard. 30 ans plus tard. Donc il y a quand même une différence fondamentale quand on lit ces deux pays en approche. Mais notez quoi aussi ? Que nous, depuis 63, nous avons eu six présidents de la République, puisque les premiers ministres, tout le monde s'en fout. Ce qui compte, c'est le président de la République en France. Parce que les premiers ministres, en faire la liste depuis 63, je suis sûr que vous en oublierez au moins deux ou trois, déjà. Tandis que nous avons même que cinq présidents de la République, tandis que du côté allemand, depuis 63, on en a eu un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept. Je rappelle qu'on a eu, depuis 63, à la mort d'Adenauer, Ludwig Erhard, qui est un CDU. Puis après, on a eu George Kissinger, rien à voir avec Henry Kissinger, l'Américain. George Kissinger, qui est un CDU, qui a fait 66-69. Puis après, on a eu Willy Brandt, que tout le monde connaît, ça, il a été SPD. 69-74, il a démissionné à la suite d'un espionnage. Son chef de cabinet était un espion est-allemand. Donc ça fait quand même curieux. Et puis après, on a eu Helmut Schmidt, 1974-1982, SPD, socialiste. Puis après, on a vu Helmut Kohl, CDU, 1982-1998, 16 ans. Donc ça, c'est le record absolu. Même en France, on n'a jamais battu 16 ans. Hein. Puis après, on a eu Gerhard Schröder, qui est un SPD qui a fait 98-2005, et depuis, on a Angela Merkel, Merkel 1, Merkel 2, Merkel 3. Donc, et je rappelle que Mme Merkel 1, c'est un parti de coalition avec le SPD, le Merkel 2, 2009-2013, c'est un gouvernement avec le FDP, avec les libéraux, et le Merkel 3, malgré le succès énorme de Mme Merkel, mais qui n'était pas majoritaire, parce qu'elle n'a pas la majorité absolue, elle n'a eu que 49,3% des voix qui lui a fait qu'il lui a manqué 3 députés pour avoir la majorité absolue, elle a fait une coalition avec le SPD. Donc on voit qu'en Allemagne. Alors, une fois que j'ai mis ça en perspective, il serait bon que j'évoque maintenant le couple franco-allemand. Ce sera ma première partie. Le couple franco-allemand, un peu, ça vous mettra en détente, un peu en détente, pour évidemment mettre un petit peu de, disons, d'humain dans une deuxième partie qui sera plus européenne, une troisième partie qui sera beaucoup plus économique. Le couple franco-allemand qui a été inauguré par De Gaulle et Adenauer et qui a été en quelque sorte la charte de mariage, c'est le traité de l'Élysée de 1963 qui permet, on l'a dit, des échanges pour la jeunesse, une sorte de sommet franco-allemand régulier, Paris-Bonn, comme on disait, qui a permis, au-delà, pas grand-chose. L'Allemagne est membre de l'OTAN, nous étions membres de l'OTAN, mais le problème, c'est que la France sort rapidement de l'OTAN. Dès le milieu des années 60, le général de Gaulle se retire, non pas du traité, mais de l'organisation. Or, l'Allemagne reste, et l'Allemagne est très américaine, puisque l'Allemagne reçoit des missiles américains. Des missiles américains en pleine guerre froide, et elle reçoit ces missiles Pershing qui lui permettent d'assurer une certaine défense face à l'Union soviétique, toujours représentée comme dangereuse. Du moins, on l'a pensée dangereuse, elle est indiscutablement dangereuse, mais peut-être pas aussi dangereuse qu'on l'a pensée pendant très longtemps. Le premier couple qui compte, c'est le couple Pompidou-Willy Brandt. Bon, là, rien. Là, c'est Pompidou est un gaulliste conservateur, alors que Willy Brandt est un socialiste, un personnage qui a immigré durant la guerre. Il était réfugié en Suède, donc quelqu'un qui n'a jamais collaboré avec les nazis, ou qui n'est jamais resté en Allemagne sous les nazis. Donc un personnage qui a surtout fait un cheminement de repentance vis-à-vis de Varsovie, du ghetto de Varsovie, vis-à-vis, bien évidemment, d'Israël. Donc il y a eu chez l'Allemagne un effort, indiscutablement, d'aller à Canossa pour obtenir le pardon de ce que l'Allemagne nazie avait pu faire. Georges Pompidou, lui, il était beaucoup plus tourné vers l'Angleterre. Beaucoup plus tourné vers l'Angleterre. À l'époque, il y avait Edward Heath comme conservateur à la tête de l'Angleterre. Et c'est l'amitié Edward Heath-Pompidou qui a permis à l'Angleterre de rentrer dans la CE, dans l'Europe de l'époque. Après arrive un couple qui est tout à fait intéressant, parce que c'est là que commence les couples, Valéry Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt. Alors ça, c'est vraiment le couple qui commence. Et comme je vous le disais, Jacques Chirac, qui est un spécialiste des formules un peu à l'emporte-pièce, Jacques Chirac disait, pour qu'un couple fonctionne, il faut qu'ils couchent ensemble. Il faut coucher. Image, bien entendu. On n'est pas à l'époque du mariage homosexuel. Donc, ce personnage, ça veut dire qu'il faut qu'ils s'entendent. Helmut Schmidt est socialiste, M. Giscard d'Estaing est libéral. Donc, officiellement, il n'aurait aucune raison de s'entendre sur le plan politique. Ce qui est assez drôle aussi, M. Giscard d'Estaing est grand et M. Schmidt petit. Ça, c'est intéressant, parce que ça marche quand il y a un grand et un petit. Quand il y a deux petits, ça ne marche jamais. Donc, c'est un constat qu'on peut faire. Qu'est-ce qui les réunit ? Qu'est-ce qui réunit M. Giscard d'Estaing et M. Schmitt ? D'abord, la crise économique. Les Américains, 1973, laissent filer le dollar. Le dollar n'est plus soutenu. M. Giscard d'Estaing et M. Schmitt comprennent qu'il faut appuyer l'Europe sur une monnaie stabilisée, du moins sur des monnaies stabilisées, et ils créent le système monétaire européen en 1979. Voilà. Ça, indiscutablement. Et il y a une grande complicité entre les deux. Aujourd'hui, ils sont vivants, tous les deux. Ça, c'est intéressant. Je disais, M. Schmitt a 93 ans et M. Giscard d'Estaing est né en 26, il a donc 88 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire que on les réunit de temps en temps. Les journaux Der Spiegel et Le Monde réunissent les vieux dirigeants européens dans une sorte de symposium où ils se tapent dans le dos, ils s'entendent bien. Je rappelle que Monsieur Schmitt, j'en ai parlé, c'est un personnage qui est considéré comme le père de l'Allemagne aujourd'hui. Très, très populaire en Allemagne. D'abord par son âge, par sa verdeur, puisque il écrit régulièrement des articles dans les journaux, il fume deux paquets de cigarettes par jour depuis l'âge de 18 ans. Donc c'est quand même, il y a des exceptions quand même, on peut dire génétiques. Et il vient de se marier avec une jeunette de 70 ans. Donc, vu qu'il est veuf, il a été veuf il y a une dizaine d'années. Donc, ça, c'est intéressant. Deuxième couple, le Français Mitterrand, petit, et M. Kohl, grand. Kohl de droite, Mitterrand de gauche. Et ils s'entendent. Ils s'entendent. Le meilleur exemple, c'est Verdun, 1984. Ils se donnent la main à Verdun pour le 70e anniversaire de la guerre. En dehors de ce moment, ils s'entendent relativement bien jusqu'à une certaine limite. Jusqu'à une certaine limite. Et aujourd'hui, M. Kohl, qui est toujours vivant, qui est plutôt handicapé parce qu'il est dans un fauteuil roulant, est un personnage très peu populaire en Allemagne. Alors que si je prenais un document, ici, on le voit, M. Kohl, réunificateur de l'Allemagne. Et ceux qui connaissent Berlin, c'est la porte de Brandebourg. Et on voit M. Kohl chevaucher les fameux chariots sur la porte de Brandebourg, où on voit Grande-Bretagne, France, USA, URSS. Et on le voit en. Et pourtant, devant l'histoire, M. Kohl porte devant l'histoire l'idée de cette réunification. Le voilà aussi, M. Kohl, et on le voit dans ses bottes CEE et réunification, et on le voit énorme avec le casque à pointe, toujours l'Allemand. Donc, c'est vrai que François Mitterrand, qui n'aime pas beaucoup les changements d'équilibre, voit d'un assez mauvais œil ce retour de l'Allemagne réunifiée. Je rappelle que Willy Brandt a initié le rapprochement avec la RDA, et en 1972, il y a eu une reconnaissance mutuelle de la RDA par la RFA et de la RFA par la RDA. Et l'année suivante, ces deux pays sont rentrés à l'ONU. Du moins, excusez-moi, la RFA et la RDA sont rentrés à l'ONU, ils n'étaient pas à l'ONU encore jusqu'en 1962, comme des séquelles de la Seconde Guerre mondiale. Donc on peut dire qu'à partir de 1972-1973, on rentre dans un monde où tout le monde reconnaît la RDA et tout le monde à l'Est reconnaît la RFA. Donc là-dessus, ça ne pose pas trop de problèmes. Donc, M. Kohl, lui, il est l'homme de la réunification. Qu'il fasse ce qu'il veut, il restera dans l'histoire. Son bilan est plutôt moyen sur le plan économique, mais il restera dans l'histoire l'homme de la réunification. C'est quelque chose, c'est un peu. Ça dépasse le personnage, même si. Est-ce qu'il a joué un rôle clé dans la réunification? Je ne pense pas, puisque le mur tombe le 9 novembre 1989. L'Allemagne se réunifie en 1990, tout simplement parce que l'URSS le veut bien, et que Gorbatchev laisse faire. Il y a quelques années, ils ont repassé la discussion entre Honecker, secrétaire du Parti communiste est-allemand. Nous sommes en 89, début novembre 89. Ça bouge depuis l'été 89, avec les Trabants, les habitants de l'Est passent à l'Ouest via la Hongrie, qui est le pays le plus en avance, le plus ouvert. Et le camarade Honecker travaille, du moins s'affole. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il téléphone à Gorbatchev, et on a l'enregistrement aujourd'hui entre la conversation entre Gorbatchev et Honecker. Et Honecker dit à Gorbatchev, camarade secrétaire du Parti communiste, que faut-il faire? Alors, Gorbatchev ne sait pas vraiment quoi faire. Et il lui dit, rappelez-moi demain, nous sommes le 3 ou 4 novembre, et le mur va tomber le 9. On ne sait pas encore que le mur va tomber. Le lendemain, Honecker rappelle Gorbatchev et lui repose la question. Il faut agir. Et Gorbatchev se tourne vers sa femme, vers Raïssa Gorbatchev, qui depuis est morte d'un cancer, et il lui dit, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui est intéressant. Et Raïssa lui dit, t'as deux solutions. ou tu réprimes, et à mon avis, ça n'arrêtera pas, ou tu laisses faire et tu rentreras dans l'histoire. Et Gorbatchev reprend le téléphone et dit à Necker, vous laissez faire. 4 jours après, le mur tombait. 4 jours après, le mur tombait. Donc, ça montre que, indiscutablement, ce qui avait été planté de ce côté, dans ceux qui ont été profs dans cette salle, savent qu'il y avait autrefois, au programme des classes de 4e, en géographie, il y avait l'Allemagne de l'Est. L'Allemagne de l'Est, le plus bel exemple de réussite dans les démocraties populaires. Bon. Et on l'a enseigné, j'ai enseigné, ne connaissant pas l'Allemagne de l'Est, à part Berlin-Est que je connaissais, pour y être allé, mais je ne connaissais pas l'Allemagne de l'Est, franchement, on enseignait des bêtises monumentales. L'Allemagne de l'Est, c'est un fiasco économique, un total fiasco économique. À l'image, bien sûr, des centrales nucléaires type, en effet, Tchernobyl. Type Tchernobyl, c'est-à-dire une industrie qui tourne que parce qu'elle est financée par le parti et par l'État. Et que on a bien vu, quand l'Allemagne s'est réunifiée, ça lui a coûté 1000 milliards de Deutschmark. 1000 milliards de Deutschmark, c'est-à-dire 500 milliards d'euros. Imaginez la France qui a besoin aujourd'hui dans sa dette de rajouter 500 milliards d'euros à la dette qu'on a pour avoir réunifié notre pays. L'Allemagne a pu le faire parce que c'est l'Allemagne. Mais si ça avait été un autre pays, on se demande qui aurait pu faire ce. Donc l'Allemagne de l'Est, c'était une illusion. Et pourtant, c'était considéré comme le meilleur pays d'Europe de l'Est. Alors qu'est-ce que c'est que les autres? Vous voyez ce que ça peut être les autres. Et puis arrive après ce couple qui va disjoncter un peu sur la crise soviétique. Parce que quand l'Europe de l'Est tombe, l'Allemagne est particulièrement active. Quand la Yougoslavie éclate en 91, l'Allemagne soutient la Slovénie qui sort de la Yougoslavie tout de suite, parce que la Slovénie est une ancienne possession autrichienne de l'Empire d'Autriche-Hongrie. C'est une région très germanique. Ceux qui connaissent la Slovénie, c'est très germanique. C'est pas du tout, méditerranéen. C'est pas du tout méditerranéen. Et bien évidemment, l'Allemagne retrouve à ce moment-là son espace d'avant 1939, c'est-à-dire même avant 14, c'est-à-dire la Mitteleuropa. Et la France, c'est très important, c'est que la France se trouve complètement marginalisée dans cette histoire. C'est-à-dire que nous, tant qu'il y a eu le rideau de fer, on était bien placés. À partir où il n'y a plus de rideau de fer, et on est marginal. On est sur la bordure atlantique. On n'est plus au centre de l'Europe. Donc Mitterrand va être très mauvais, là. Il est très très mauvais dans l'affaire yougoslave, Mitterrand. Mitterrand n'aime pas l'éclatement, Mitterrand est pour les États permanents, il est pour qu'on garde la Yougoslavie et pas pour la balkanisation, comme il y a lieu maintenant. Et puis en 91, quand il y a le coup d'État en URSS, quand le 21 août 91, quand on renverse Gorbatchev et qu'on le met en résidence surveillée en Crimée, en Crimée, l'Allemagne, tout de suite, en effet, monte au créneau en disant c'est inadmissible. La France ne dit rien. La France laisse faire. Et il faut que Mitterrand attende que Helsinki monte sur l'écharpe Place Rouge, à Moscou, et bien sûr fasse échouer le coup d'État pour que la France agisse. Donc la France a du mal à accepter que l'Allemagne revienne leader, ça c'est clair. C'est une chose qui garde à travers, on accepte mal que l'Allemagne soit leader. Alors arrive après un couple, Jacques Chirac, Gerhard Schröder. Jacques Chirac est élu en 95, Schröder en 98, Chirac s'en va en 2007, Schröder en 2005. Donc c'est un couple qui est curieux parce que... Gerhard Schröder, c'est un type qui n'est pas cultivé. Voilà. Donc c'est un barbare. C'est bien un Allemand. Donc, non, mais je vous dis ça parce qu'on l'a vu ensemble il y a 3 semaines avec la guerre de 14. c'est-à-dire un barbare. Ils ont beau avoir Beethoven et Goethe et tutti quanti, c'est pas la France. Nous sommes le pays de la culture. Nous sommes la culture. Nous sommes la culture. Ça, c'est évident. C'est ce qui nous rend très pénible au niveau européen. Parce qu'on est sûr de nous. On est sûr de nous. Alors, il faut dire que Gerhard Schröder, il est né en 44. Il est né en 44, son père est mort sur le front roumain, en 44. Donc sa mère s'est remariée avec un monsieur Schröder, qui a reconnu le gamin. Ce gamin, il a dû travailler dès 12 ans, donc dans les années 56 en Allemagne, où ce n'est pas facile. Et par des cours du soir, il est devenu avocat à 29 ans. Il est devenu avocat maintenant. Et à partir de 29 ans, il n'a qu'une chose en tête, c'est s'enrichir. Il est à l'image de l'Allemagne, c'est-à-dire gagner du pognon. Mais c'est un type qui n'a pas eu de culture. Il n'est pas passé par une grande école, et il n'est pas Jacques Chirac, qui a fait Sciences Po Paris, l'ENA, qui est un type très cultivé, Jacques Chirac. Du moins, on l'a toujours vu serrant les mains et tapant sur le cul des vaches, mais il sait faire autre chose que ça, Jacques Chirac. C'était un type cultivé. Il savait parler des arts primitifs chinois, de l'Asie. C'est un grand spécialiste de l'Asie. Gerhard Schröder, il ne parle pas le français. Alors que Kohl parlait français, parce qu'il est de la vallée du Rhin. Il parlait français. Adenauer parlait le français. Bien sûr. Willy Brandt parlait le français. Donc, lui, il ne parle pas le français. Il est de la Basse-Saxe, c'est-à-dire du nord de l'Allemagne, région d'Hanovre. Il est venu en France avec sa mère et son beau-père dans une caravane, avec la bière allemande dans le coffre, et les saucisses. Et il connaît quoi de la France ? Les campings. Il connaît la France, les campings. Il connaît pas le Louvre, tout ça. Schröder, c'est pas son truc. Schröder, c'est un homme, un avocat, un homme d'affaires. Il est au conseil d'administration de Volkswagen, puisque Volkswagen est dans le Basse-Saxe. Donc là, je tombe présence. Je tombe présence. Il est président du Land de Basse-Saxe, et vu qu'il est, il est devenu un peu cultivé, parce qu'il s'est marié trois fois, c'est son troisième mariage aujourd'hui, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas d'enfant, il en a quatre, et il a adopté des enfants, disons, du monde. Des enfants du monde. Et ce Schröder a un semblant de vernis culturel avec l'expérience et surtout avec le fait qu'il a un avion particulier, un jet privé, pour aller à la Scala de Milan où Volkswagen a une loge permanente. Donc il peut aller à l'Opéra, à la Scala de Milan. Donc, à part ça, c'est un homme d'affaires. Ce qui n'est pas tellement les présidents français. Chirac, ce n'est pas un homme d'affaires, ce n'est pas un homme de business. Schröder, c'est un homme d'affaires. Il est dans Volkswagen, donc il connaît ce que c'est que l'entreprise. Jacques Chirac et l'entreprise. Un président français et l'entreprise, on ne connaît pas beaucoup. C'est des intellectuels ou des gens comme ça. On ne connaît pas les entreprises. Le seul qui ne connaît pas l'entreprise, c'était Pompidou, qui avait travaillé chez Rothschild, qui avait travaillé à la banque Rothschild. Donc, ce personnage, Jacques Chirac dit, je vais rencontrer Schröder. Alors, rencontrer Schröder... il va rencontrer Schröder et il dit à son cabinet « Faites quelque chose, j'aille voir le chancelier allemand, il faut lui apporter un cadeau. » Alors les gens disent « Mais on ne le connaît pas, Schröder. Hein. »« Mais cherchez, c'est votre boulot. » Alors on dit « Oh oui, mais il est dû à Hanovre, monsieur le président. » Et nous avons une assiette dans les collections de Sèvres sur la ville d'Hanovre. « Excellent, vous me faites un paquet, j'emporte. » Et voilà d'autres Jacques Chirac. Avec le paquet, il arrive chez Schröder, monsieur le chancelier, de la part de la France, un cadeau de bienvenue. Alors Schröder ouvre l'assiette, et il ouvre le paquet, l'assiette, et il écrase son cigare dedans. Oh là là, le barbare. C'est du Sèvres, c'est pas du Pyrex. Oh là là, c'est du Sèvres, oh là là. Alors, le début, ça a été catastrophique. Bon, vraiment l'image de l'Allemand, quoi. Le buveur de bière et bouffeur de saucisses, ouais. Donc, une image. Et puis, ce couple, le grand Jacques et le moyen Gerhard, se sont très bien entendus. D'abord, parce que ils aiment la bière tous les deux. Ils aiment la bière, ils aiment les femmes peut-être aussi. Et puis, par exemple, ils se sont entendus avec la fameuse affaire de, je dirais, ils se sont entendus surtout lors du vote de M. de Villepin, quand M. de Villepin, à l'Assemblée de l'ONU, a pris position contre l'intervention en Irak et l'Allemagne a suivi la France. Première fois que l'Allemagne ne suivait pas les États-Unis. Ça, ça a été un coup mais extraordinaire. Aujourd'hui, on semble l'oublier. 11 ans après, on a un peu oublié. Mais c'est quelque chose, ça a été un tsunami au niveau des relations internationales, que l'Allemagne, qui était sous contrôle américain depuis la fin de la guerre, voilà l'Allemagne qui ne suivait plus pour aller rejoindre les Français. Bon, Gerhard Schröder s'en va. Arrive, bien sûr, Angela Merkel. Alors, Angela Merkel, ça mérite, comme on dit à Lyon, son pesant de graton. Donc, voilà. Alors, Angela Merkel, c'est une femme, la voilà jeune, après la réunification, où elle est ministre des femmes et de la jeunesse. Voilà, Angela Merkel, en 92, donc il y a 22 ans, elle avait autour de la quarantaine. Puis, la voilà en 95, où elle est ministre de l'Environnement, oui, dans le gouvernement Kohl, puisque c'est une protégée de Kohl. Protégée de Kohl. La voilà en 97, elle devient présidente de la CDU, du Land de Mecklembourg-Poméranie occidentale. On commence à voir poindre l'Angela. Et puis, la voilà en 2006, celle qu'on connaît en 2006. Alors, il est évident que Angela Merkel est... Ah, pardon, il faut que je mette sur le papier. Bon, je vais prendre ce papier, je ne sais pas où il a disparu. Voilà. Elle est... Elle a été élue dans le Mecklembourg-Poméranie. On voit que tout ce qui a été rattaché à l'Allemagne de l'Est, c'est le Mecklembourg, le Brandebourg avec Berlin, la Saxe-Anhalte et, bien sûr, la Thuringe. Voilà, c'est les cinq Länder plus Berlin qui ont été rattachés, qui étaient la RDA. Alors, Angela Merkel, c'est une scientifique. Bon, c'est une scientifique. Elle a épousé M. Merkel en première noce, dont elle a divorcé. Et maintenant, elle vit avec un collègue qui est un personnage très discret, qui est le seul homme souvent dans les réunions de chefs d'État, puisqu'il est entouré de femmes. Les femmes des chefs d'État, et lui, il est le seul homme. Donc, puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes, Premier ministre ou chef de gouvernement. C'est une fille de pasteur qui est née à Hambourg et dont les parents, au début des années 50, sont passés en RDA, croyant au système de l'Est. Bon, et c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'Allemands qui sont passés comme ça, de l'Ouest à l'Est, pensant que ce qui était à l'Est était peut-être la vraie politique pour une Allemagne qui avait fauté, et c'était peut-être là la rédemption allemande. Alors, cette Angela Merkel, il faut qu'elle va rencontrer sur sa route, bien sûr, Nicolas Sarkozy. Alors, deux petits, deux droites, deux gens de droite, ça ne va pas tellement fonctionner. Nicolas Sarkozy, c'est un homme de l'action immédiate. Il tire plus vite que son ombre. C'est un personnage qui est toujours en train d'anticiper. Madame Merkel, c'est une scientifique, donc il lui faut du temps. Elle met dans l'éprouvette et elle regarde la réaction. Donc il faut du temps pour que l'expérience donne. Donc, deux personnages qui ne peuvent pas s'entendre. Qui ne peuvent pas s'entendre fondamentalement. Arrive, au moment où ils arrivent, Nicolas Sarkozy arrive en 2007, elle en 2005, donc elle a un peu plus d'expérience que lui. Et au moment où ils vont vraiment se côtoyer, c'est avec la crise économique européenne. Nicolas Sarkozy est pour l'action, par exemple vis-à-vis de la Grèce. Madame Merkel, elle est plutôt dans le genre « attendons de voir », car ces pays n'ont pas mérité qu'on fasse des efforts. Ils n'ont rien foutu, c'est des vraies cigales, c'est des feignantes, ces pays du Sud. Nous, on bosse, on bosse. Bon, Nicolas Sarkozy dit non, il faut, il y a l'euro, patati et patata, il faut agir, sinon on risque de, l'Europe risque d'éclater. Bon, il a fallu un moment. Et quand le moment arrive, bien évidemment, il y a l'idée que le, je cherche le dessin qui correspond le mieux. Il y a un dessin qui est sympa. Je ne sais pas. Ah oui, voilà le dessin sympa. Voilà. Après Contador, Sarko de paix au Mercator. Donc, et on voit Sarko pédalant. Donc, il est évident que, à partir du moment où on a créé le terme Mercosy, c'était foutu pour Nicolas Sarkozy. À partir du moment où c'était Mercosy, c'est-à-dire Madame Merkel, qui en imposait à la France. Donc c'était fini. Donc, ça a été un couple qui a peu duré, 5 ans. Madame Merkel étant la seule survivante de tous les chefs d'État européens, la seule qui a été réélue. Il y a 2 chefs d'État qui ont été réélus, M. Obama et elle. Il y en a 2. Et il est évident que les autres ont disparu. Disparu de la scène politique. Et Madame Merkel a dû recevoir un nouveau Français, François Hollande, petit, cette fois à gauche, pas à droite, avec lequel c'est pas l'amour fou, c'est pas l'amour fou. Il faut dire que là, quand il, le premier voyage, que monsieur, une fois l'élection de Monsieur Hollande en 2012, il prend l'avion et vous savez que l'avion a été touché par la foudre et il a fallu revenir en France. C'était le premier rencontre qu'a déjà Dieu y a mis son doigt pour éviter la rencontre. Et puis, quand il est arrivé, alors ça vaut le coup, Madame Merkel, qui est une femme plus délicate qu'on pense, elle a bien évidemment préparé un repas. Un repas pour Monsieur Hollande. Ce qu'ils ont en commun, c'est que François Hollande, il est connu pour ses jeux de mots, pour son humour parfois un peu qui tombe à plat, mais et Madame Merkel, on dirait pas, mais elle est plutôt du genre plaisante et elle aime aussi rire. Alors elle avait préparé un repas, bouillon de bœuf, 2 asperges sauce hollandaise. Le problème, c'est que Monsieur Hollande déteste les asperges. Donc raté ça. Et après, François Hollande dit « J'aimerais bien boire du vin rouge allemand. » Et Madame Merkel dit « Quand on boit du vin rouge, on boit du vin rouge français. Voilà. » Donc, ça, tout le monde a dit « Ça n'a pas été le coup de foudre. » Ça n'a pas été le coup de foudre. Ça n'a pas été le coup de foudre. Et depuis, tout le monde se souvient du premier arrivé de Monsieur Hollande en Allemagne où Madame Merkel lui a filé un coup de coude pour lui dire « Mon gars, marche droit, marche dans ta file, viens pas me couper le trajet. » Alors, on en est un peu là. On en est un peu là. Et il est évident que la situation économique de la France ne permet pas à Monsieur Hollande de pouvoir affirmer son point de vue vis-à-vis de l'Allemagne. Vis-à-vis de l'Allemagne, qui, on le verra tout à l'heure, en économie, c'est pas un pays sans peur et surtout sans reproche, mais par rapport à nous, c'est quand même, elle joue dans une autre catégorie économique. Alors, ces deux pays ont été aussi, depuis 1963, c'est ma deuxième partie, des acteurs essentiels de la construction européenne. Mais je n'irai pas sur la construction européenne dans son détail, mais je rappelle qu'il y a 2 phases dans la construction européenne. Une première phase, 63, l'Europe ayant commencé avant, mais puisqu'on commence aujourd'hui à 63, 63-99. Là, ce qu'on veut ou non, c'est la France qui fait ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut en Europe. Quand De Gaulle dit non, c'est non. Les Anglais veulent rentrer, De Gaulle dit 2 fois non, 63, 67, et tous les autres ont dit c'est non. En 65, De Gaulle fait la chaise vide, c'est-à-dire il boude, pas lui, mais la France boude pendant 6 mois les réunions européennes, parce que la France refuse qu'on prenne une décision qui lui est contraire à ses intérêts. Au bout de 6 mois, les Européens vont vers lui, les 5 autres, ils disent ben, il faut trouver un compromis, qu'on appelle le compromis du Luxembourg. Un pays peut bloquer. Et depuis 1965, un pays peut bloquer, c'est la France qui est responsable. Jurisprudence française. Quand Mme Thatcher dira non, tout le monde dit allez, Maggie, fais un effort, il faut dire oui, je fais comme les Français. Jurisprudence. Donc aujourd'hui, la Slovénie peut bloquer. La Slovénie peut bloquer. Jurisprudence de Gaulle, 1965. Troisièmement, arrive 1981, qui veut élargir à la Grèce la France. Monsieur Giscard d'Estaing, dans un discours, un de ses derniers discours, la Grèce, pays de la culture, tout ça, de l'histoire, tout le monde, oui, la Grèce. Et puis, tout le monde dit, allez, la Grèce fait rentrer, à quoi ça sert la Grèce? Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'il y a en Grèce? Rien. Quel produit? Rien. Est-ce qu'elle est... Oui, un peu de résiné. Elle a du liège, des olives. Elle a quand même un pavillon de commerce avec Nyarkos, Onassis, tout ça. Mais personne n'a mis le nez dans les comptes grecs. Personne n'avait mis le nez dans les comptes grecs, qui étaient archi faux depuis des décennies, bien sûr. Mais la Grèce, c'est l'histoire européenne. Bref. Ce qui est entièrement faux, les Grecs n'ont jamais réfléchi en européen. Jamais les Grecs n'ont réfléchi en européen. Quand on prend la Grèce antique, nous étions tous des barbares. Que des barbares. Même les Perses étaient des barbares. Donc jamais un Grec n'a réfléchi en européen. Ça, c'est clair. Ça, c'est une idée essentielle de l'histoire européenne. Ni les Romains, jamais un Romain n'a réfléchi en européen. Ils se sont dit Romains. C'est ça qui est intéressant. Alors d'où vient... C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a du mal à être européen, parce que être européen, c'est apparu quand? Ben, c'est apparu, et c'est pour ça qu'il y a un problème aujourd'hui en Europe, et ce problème, je ne vais pas trop creuser. L'idée européenne est apparue au 8e siècle, sous le nom des chevaliers de l'Europe, voilà ce qui s'est dit, chez un moine espagnol, pour lutter contre les musulmans en Espagne. Voilà. C'est-à-dire que l'Europe, c'est une terre de chrétienté face au reste. Voilà. Donc c'est la chrétienté qui a défini l'Europe. C'est la chrétienté qui a défini l'Europe. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très difficile, puisque l'Europe ne se réclame pas de la chrétienté. Elle ne se réclame pas. Et donc, c'est ça. Alors, la Grèce arrive. Les Espagnols, Franco est mort en 1975, l'Espagne revient à la démocratie, et dès 1976, l'Espagne demande à rentrer dans l'Europe avec le Portugal, qui est sorti, depuis la révolution des œillets, de la dictature. La Grèce ne demande à rentrer dans l'Europe qu'en 1977, et elle rentre en 1981. En 4 ans, elle rentre. L'Espagne, personne ne la veut. Pourquoi? Parce qu'il y a les fraises espagnoles qui font de la concurrence aux fraises du sud-ouest, il y a les choux-fleurs espagnols, il y a les artichauts espagnols, il y a Barcelone qui fait de la concurrence, il y a le Pays Basque qui nous énerve. Bref, tout nous énerve chez les Espagnols, et on n'en veut pas. Le Portugal, tout le monde s'en fout. Hein. Il produit rien, part du Porto. Et vu qu'on n'y a rien qui concurrence le Porto chez nous, à part peut-être le Banyuls, presque la seule chose qui concurrence le Porto. C'est pas concurrent le Portugal. Et qu'est-ce qui se passe? François Mitterrand arrive. Ben non, pas d'Espagne, pas le Portugal. 82, Monsieur Felipe González est élu en Espagne. C'est un socialiste, et on peut pas faire ça aux socialos. Et donc, 4 ans plus tard, l'Espagne et le Portugal rentrent dans l'Europe. La France fait ce qu'elle veut. Et bien évidemment, cette idée que la France imposait sa marque à l'Europe va se terminer en 99. Et en 99, M. Schröder, qui vient d'arriver l'année précédente, il dit cette phrase, l'Allemagne ne donnera pas un sou de plus. Vous vous débrouillez avec le budget. Si vous voulez élargir l'Europe, l'Allemagne n'est pas contre, mais il faudra un budget constant, non pas global, mais un budget constant de l'Allemagne. L'Allemagne ne donnera pas un sou. Alors, je m'explique. C'est-à-dire que, vous savez que tout pays qui rentre dans l'Europe paye une contribution au budget européen, qui est prélevée sur la TVA. C'est pour ça qu'il faut une TVA quand on rentre en Europe. Et puis, il y a des petits trucs qui rapportent, mais pas grand-chose, c'est la TVA qui rapporte, bien sûr, le plus, un pourcentage de la TVA. Et en gros, c'est 1,27% du montant de la TVA. L'Allemagne, elle donne 100, elle verse 100, elle touche 50. Donc l'Allemagne finance l'Europe. La France donne 100 jusqu'en 99, elle touche 120. Correct. L'Espagne donne 100, elle touche 150. Le Portugal donne 100, il touche 200. L'Irlande donne 100, elle touche 220. Donc, l'Allemagne dit, je ne donne plus un sou de plus. Or, qu'est-ce qui va rentrer? Que des pauvres. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va rentrer? Tous les pays ex-communistes. Donc, c'est-à-dire que des pays pauvres. Donc, des pays qu'il va falloir financer. Et l'Allemagne dit, c'est fini. Alors, tout le monde va voir, et aujourd'hui, la France donne 100, elle touche 80. L'Allemagne donne 100, elle touche 50, toujours, mais l'Espagne donne 100, elle touche 110. Voilà. Pour que la Pologne touche 150. Pour que la Roumanie touche 170. Voilà. Donc, et l'Allemagne a imposé. Donc on peut estimer que M. Schröder, qui est un garçon de l'après-nazisme, puisqu'il est né en 1944, c'est presque de l'après-nazisme, il avait un an et demi quand le Troisième Reich s'est tombé, donc on ne peut pas l'accuser quand même d'avoir été nazi, il ne faut pas exagérer. Monsieur Schröder, c'est la fin de la culpabilité allemande. Voilà. C'est l'Allemagne qui se relève. Et ça, j'insiste beaucoup parce qu'il y a un film qui serait intéressant de passer dans un débat sur l'Allemagne, qui s'appelle « Le mariage de Maria Braun ». Un film d'un grand metteur en scène allemand qui est mort du sida, qui s'appelle Fassbinder. Fassbinder est... C'est un film, Maria Braun, c'est une femme qui est jeune en 1945, et quand le film se termine, en gros avant Schröder, au début des années 90, elle a 35 ans de plus. Elle a à peu près 65 ans. À peu près 65 ans. C'est la même actrice qu'on a grimée, mais c'est la même actrice. Alors le film est intéressant parce que Fassbinder, il veut représenter l'Allemagne à travers cette femme. Alors, si je résume et je contracte très fort le film, au début, elle a 20 ans, elle couche avec des Américains pour avoir du chocolat et des banilons. Pour avoir du chocolat et des banilons. Et puis, vu qu'elle est jolie, quand on est femme, qu'elle est jolie, elle épouse un vieux. Elle épouse un vieux. Elle épouse un vieux qui a du pognon. Qui a du pognon. Ben, un vieux qui n'a pas de pognon, c'est pas intéressant. Donc, elle épouse un vieux qui a du pognon et qui est chef d'entreprise. Qui est chef d'entreprise et qui meurt. Assez rapidement, et donc elle devient l'héritière. Elle devient l'héritière et elle devient femme d'affaires. Elle devient l'Allemagne. Elle devient l'Allemagne. Les affaires. Et elle habite une énorme villa allemande cossue. Et à la fin, je saute rapidement, il y a le facteur qui arrive et qui « Madame Braun, une lettre pour vous ». Alors elle se retourne, elle sort sa Mercedes, bien sûr, elle se retourne. Et le facteur arrive, il lui tend la lettre. Et Madame Braun ouvre son sac pour prendre une pièce, pour remercier le facteur. Et le facteur a cette phrase, « Madame Braun, un sourire me suffit. » Et elle lui répond, « J'aime mieux payer que de dire merci. » Voilà. Voilà l'Allemagne. « J'aime mieux payer que de dire merci. » Donc c'est ça le film de Fassbinder. C'est l'Allemagne. « J'aime mieux payer que de dire merci. » Donc... Cette Allemagne, à partir de 1999, elle a expié. Elle a expié, Willy Brandt, elle a fait un grand musée de l'Holocauste à Berlin, le grand musée de l'Holocauste à Berlin, qui est fait. L'Allemagne est allée en Israël, elle a réparé le ghetto de Varsovie, comme on peut réparer, avec de l'argent. Ça ne répare pas les mémoires, mais ça répare un peu. Et à partir de 1999, l'Allemagne, par la disparition des démocraties populaires, elle est au centre de l'Europe. Elle est réunifiée au centre de l'Europe. Elle est là. Quand on va à l'Est et à l'Ouest. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Allemagne, on comprend bien qu'avec la question de Crimée, elle n'est pas comme nous. Elle a des intérêts tellement énormes en Russie par rapport à nous. Par rapport à nous. Et puis nous aussi, c'est pareil. Que deviendrait le club de foot de Lens? C'est un Russe qui le tient. Il en soit, si on leur pique leur, coupe, leur club de foot, ils votent tous FN. Ils votent tous FN. Tous. Et c'est un Russe qui finance le club de foot. Ce soir, Chelsea, qui finance Chelsea? C'est un Russe. Mais l'autre côté, c'est les Qatars. Alors, il faut savoir choisir. Ou les Qatars ou les Russes. Bon, alors, à tout choisir, on peut qu'hésiter. On peut qu'hésiter. Donc, on n'a pas les mêmes. L'Allemagne a d'énormes intérêts avec l'Allemagne. N'oubliez pas que M. Schröder, il est président du gazoduc, en effet, Russie-Allemagne, en effet, de Nord Stream, qui lui paye 1 million d'euros par an. M. Gazprom lui paye 1 million d'euros par an pour être simplement l'homme qui représente, parce qu'il représente certains intérêts et il a un carnet d'adresse. Donc ça change tout, ça. Ça change tout. Alors depuis 1999, l'Allemagne, elle est sur une autre pente. Elle qui était tête basse, qui avançait tête basse depuis 1945, et chaque fois qu'elle relevait la tête, on lui disait Shoah. Et elle baissait la tête. Maintenant, l'Allemagne, elle a tourné la page. Elle a tourné la page. Et je vois ce matin avec mes étudiants allemands que j'ai en cours. C'est vrai que les étudiants allemands, là-dessus, ils sont blasés du nazisme. Ils sont blasés du nazisme. Ils sont même, je dirais, saturés du nazisme. Mais ils ont conscience que c'était une page de l'histoire très difficile, très douloureuse, pas simplement pour l'Allemagne, pour le monde entier. Donc ils en sont conscients. Mais il est évident que désormais, l'Allemagne, ce que je disais tout à l'heure, elle occupe une place prépondérante en Europe. Prépondérante. Aujourd'hui, quand les Chinois, ils sont passés l'autre jour à Lyon et à Paris, bon, c'est bien, on a eu 18 milliards de dollars de commandes, en espérant que ça marchera. Mais quand les Chinois veulent véritablement honorer quelqu'un, et honorer l'Europe, ils honorent Madame Merkel. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que je reviens aussi à une anecdote avant de passer à ma partie sur la question de l'économie. Madame Merkel est quelqu'un qui est simple. Elle est simple, une femme autoritaire, elle sait ce qu'elle veut. Elle est une femme de rigueur. Elle est hantée, comme tous les Allemands, par une chose. Elle est hantée par la crise de 1923. Ça, c'est clair. Or, je vous l'ai dit la dernière fois, elle devrait penser que la crise de 1923 n'est pas une bonne chose dans l'histoire allemande, mais n'est pas, pour les spécialistes de l'économie, n'est pas l'explication de l'arrivée d'Hitler au pouvoir. L'explication de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est bien sûr le fameux traité de Versailles, inadmissiblement dur pour l'Allemagne, c'est la politique de rigueur qui est mise en place par le chancelier Brüning. Et aujourd'hui, dans les journaux, vous avez peut-être suivi, l'Europe s'affole de la déflation. Or, la déflation, c'est la politique du chancelier Brüning de 1930-31. C'est-à-dire chômage, baisse des salaires, blocage des salaires, baisse des prix, sous-investissement. Voilà, c'est ça. Politique de déflation. Qu'on a. Et c'est ça, Madame Merkel est hantée par ça. Mais c'est une femme, le matin, quand elle sort de son appart, elle vit à Berlin avec son mari, elle descend boire son café en bas. Elle se rend au truc du gouvernement, du moins à son bureau, souvent à pied. Bon, qu'elle ait 2-3 gardes du corps, on peut comprendre. Mais elles sont à pied. Quand elle va au festival de Bayreuth, Wagner Bayreuth, deux fois de suite, elle a remis la même robe longue. Et les journalistes lui ont posé la question, elle a dit « Je ne fais pas de dépenses ostentatoires. » Quand elle est allée, quand M. Sarkozy l'a rencontrée pour la première fois, il a dit bonjour au mari de Mme Merkel en disant « Bonjour, M. Merkel. » Oh là là. Ça a commencé bien. Là encore, il n'avait pas dû être bien coaché. Et comme M. Sarkozy est allé à Pékin, non, à Shanghai, pour l'exposition universelle de Shanghai, en 2010, Il a été reçu, vu que la France était, était un peu en froid avec la Chine à cause du Tibet, des droits de l'homme, où la France, là-dessus, défend ses idées avec tout à fait raison. Et on lui présente un film sur les réalisations chinoises. Monsieur Sarkozy, fatigué, se met à bâiller. Les Chinois... Les Chinois le photographient bâillant. Et sur les réseaux sociaux chinois, le président de la République française bâille quand on lui présente les réalisations chinoises. Donc, quel mal élevé ce Français, quel mal élevé ce Français. Et en plus, peu respectueux de notre pays. Quand Mme Merkel arrive à Shanghai, elle loge au Sofitel de Shanghai, et on lui dit, Mme Merkel, la suite... Non, elle dit, je vais vivre avec mon staff au troisième étage. Bon. Et le lendemain matin, Mme Merkel, vous voulez prendre le petit déjeuner dans votre chambre? Non, je descends prendre le petit déjeuner avec mon staff. Et elle descend au petit déjeuner, et là, Mme Merkel fait tomber un pain. À ce moment-là, 50 Chinois jaillissent pour ramasser le pain, et Mme Merkel, qu'on croit lente, paf ! Elle ramasse le pain et elle le mange. Ah, les Chinois ! La femme la plus puissante du monde mange un morceau de pain qui est tombé par terre. Imaginez un milliardaire chinois qui fait tomber son morceau de pain, il aurait dit, il aurait tout balancé, vous me changez tout ça. Mme Merkel, chinois, éblouie. Quelle femme simple, respectueuse, de la nourriture. Alors ça lui a valu, sur les réseaux sociaux chinois, un respect mais extraordinaire. Cette femme, mais comme quoi, elle reste une femme près des réalités, puisqu'elle ramasse le pain et elle le mange. Oui, des choses aussi simples que ça, qui marquent un personnage. Alors, il est évident que entre cette France... Alors, c'est vrai qu'il y avait un dessin là plutôt sympa que j'avais évoqué la dernière fois. Ça me permettra de conclure avant de passer à la partie économique. C'est vrai que Mme Merkel n'est pas très aimée. Il y a une caricature ici qui la montre. Avec ses yeux en forme d'euro. Ça, c'est intéressant. Et puis là, il y a un dessin, une caricature allemande. Elle est moins européenne que Kohl, moins visionnaire que Schmitt, moins audacieuse que Schröder, moins charismatique que Brandt, mais elle est à la hauteur. Voilà. Et on la représente, bien sûr, en Superman ou en Superwoman. Et il y a une autre caricature, là, qui est plutôt méchante. C'est une caricature Angela Superstar, vue par un dessinateur suédois. On la voit là. On la voit donnant à manger, quand même, aux aigles prussiens. Donc, assez dur. C'est évident que cette Allemagne inspire, quand M. Montebourg s'énerve, et il va sûrement s'énerver encore plus aux lourdes responsabilités qui sont les siennes aujourd'hui, il traite l'Allemagne de Mme Merkel, de Bismarck. Donc tout de suite, on ramène l'Allemagne à la Prusse, alors que Mme Merkel n'est pas prussienne, mais elle a vécu dans le Mecklembourg, c'est-à-dire quand même l'ancienne Prusse, partie de l'ancienne Prusse. Quand les Allemands, on énerve les Allemands, ils nous disent qu'on est véritablement, vraiment, des gens irresponsables. Et il y a un philosophe allemand qui avance l'idée que les Français devraient quand même se mettre dans la tête, quand ils font cocorico, qu'en 1940, vous avez perdu la guerre. Et si vous l'avez gagnée, c'est pas grâce à vous. C'est grâce aux Américains et aux Soviétiques. Donc, vous voyez, ça sort. Alors, l'idée de Mauriac, qui avait cette jolie phrase que vous connaissez tous, j'avais employée j'adore l'Allemagne, je suis content qu'il y en ait deux, donc à l'époque de la RFA et de la RDA. C'est un petit peu ça aujourd'hui, parce qu'il y a même un Français qui s'appelle Alain Badiou, qui est un philosophe, Alain Badiou, et il lance l'idée, pourquoi pas une RFA, une République française-allemande. C'est-à-dire une unification entre la France et l'Allemagne. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Il y a eu une idée, c'était au tournant des années avant l'arrivée, si vous voulez, au moment de la grande amitié Schröder-Chirac, c'est-à-dire 2001-2002, quand la France et l'Allemagne étaient sur la même longueur d'onde, et même jusqu'en 2003, l'idée qu'on pourrait faire des ministères communs. Trouver un ministère, c'est ce que François Hollande a proposé le 14 janvier lors de sa conférence de presse, d'un ministère de l'énergie renouvelable. Il avait proposé à l'Allemagne, l'Allemagne a refusé. L'Allemagne a refusé. Donc, l'idée de la proximité franco-allemande qui était assez forte au début du siècle, aujourd'hui, a disparu. Alors, reprenons maintenant ma dernière partie. Sur cette question du modèle économique allemand. Le modèle économique allemand, et puis j'aborderai après la question des difficultés allemandes, sans oublier le modèle français. Alors, je partirai d'abord du modèle allemand, du modèle français que vous connaissez tous, puisque parmi vous, il y a peut-être des chefs d'entreprise. La France est un pays où il y a historiquement un divorce entre l'entreprise et l'État. Voilà. Entre l'entreprise et l'État, il y a un divorce. L'entreprise, c'est des patrons, et l'entreprise, elle pense qu'elle gagne l'argent, elle ne fait pas de politique sociale, donc c'est à l'État d'assurer la politique sociale. D'où, on se méfie des entreprises. On se méfie des entreprises, donc on les taxe, on les nationalise, de temps en temps, on les reprivatise quand on a besoin d'argent, mais ça reste des rapports difficiles, très difficiles. Les quelques ministres qui ont essayé, le général de Gaulle, qui ne connaissait rien à l'économie, avait une politique qui a été, je dirais, portée par la croissance économique toute seule, et c'était surtout des grands projets d'État, que ce soit le Concorde, le plan calcul, tout ça, c'était des choses de l'État, financées par l'État. Les compagnies d'essence, les compagnies pétrolières, comme en effet Elf, c'était une compagnie d'État. Donc il y a toujours eu ce rôle de l'État. Premier Mitterrand, c'est la nationalisation. Deuxième Mitterrand, c'est le Nini, ni privatisation, ni nationalisation. Jacques Chirac, il tente en 1986 de privatiser, mais il tombe sur les émeutes des étudiants de fin 86, et c'est la mort de Malik Oussekine, et là, il est bloqué, il ne fait plus rien. En 93, Edouard Balladur fait une politique plutôt favorable à l'entreprise, et puis arrive le CPE, le fameux contrat professionnel, qui amène les jeunes dans la rue, et Balladur, allez, aux oubliettes. Je rappelle le slogan, les jeunes dans la rue, le pouvoir est foutu, donc ça c'est clair. Après Jacques Chirac, l'homme qui a le plus fait pour l'entreprise, et vous allez rester assis, qui a le plus privatisé en France, c'est Lionel Jospin. Ouais, c'est Lionel Jospin, c'est quand même assez extraordinaire. L'homme qui a fait le plus, de privatisation au niveau des entreprises. Bon, globalement, il reste une structure de doute. Deuxièmement, on a des syndicats qui sont des syndicats révolutionnaires. Voilà. Ils ont dans leur gène, je ne dis pas qu'aujourd'hui ils sont révolutionnaires, mais ils ont dans leur gène la révolution. Je m'explique. La CGT, elle date de 1800, on est dans les locaux ici, 1895. La CGT, premier syndicat français, 1895. La charte fondatrice de la CGT, c'est la charte d'Amiens, 1906. Qu'est-ce qui est dit dans la charte d'Amiens de 1906 ? Il est dit que qui fera la révolution sociale ? Le syndicat. Pas le parti politique. c'est le syndicat. Sous-entendu que quand tu rentres travailleur, quand tu rentres au syndicat, tu n'as plus d'étiquette politique. Tu es dans le syndicat. Et c'est par le syndicat qu'on arrivera à la révolution en faisant la grève générale. C'est la grande tentative de 1920 qui a échoué. Puis arrive 1936, le Front populaire, les syndicats, la peur du patronat. Je rappelle à Lyon, par exemple, les syndicats prennent le mot Berliet. Berliet, c'est quand même l'entreprise, la grande entreprise, disons, de construction de camions. Et on prononce Berliet, et non pas comme certains Berliet. En français, ça prononce Berliet. Et vous changez les lettres, vous faites un anagramme, ça fait liberté. Donc sur les murs, les ouvriers enlèvent les lettres et ils mettent liberté. À Vénissieux, par exemple. Il reste 36. Hein. 36, ça a fait peur. Ça a fait peur, mais pas savoir que ça fait peur. Moi, j'ai travaillé sur 36, mais vraiment, il y a une haine du patronat pour le monde syndical. Vichy supprime les syndicats. Allez, plus de syndicats, les corporations. À la fin de la guerre, les syndicats sont omniprésents. Ils occupent les usines, ils forcent l'État à, bien sûr, arrêter des patrons. Louis Renault, par exemple, qui est arrêté, à qui on piquera son usine. À Lyon, Berliet est mis en prison, mais il récupérera son usine en 49. Et arrive, bien évidemment, cette gauche, cette libération qui nationalise à tour de bras. Ça n'arrange pas les relations. Arrive De Gaulle, comme je vous l'ai dit, la croissance est là, donc tout baigne. En 1947, un deuxième syndicat apparaît en France, qui s'appelle FO. FO, c'est CGT-FO. C'est-à-dire, on trouve que CGT est trop près du communisme, et une partie des syndiqués crée un syndicat non communiste, même s'il y a tout à FO, puisque FO, c'est le syndicat où il y a tout, on y trouve aussi bien du Front National que des gens de gauche. C'est un syndicat assez curieux, FO. Et puis troisièmement, en 64, apparaît un troisième syndicat, la CFDT. La CFDT apparaît en 64, syndicat qui est plutôt proche du PS. Plus, je ne parle pas des syndicats des enseignants, qui sont des syndicats un peu à part. Et qu'on veuille ou non, le seul homme en France qui était dit libéral, voilà un mot qu'on ne prononce pas en France, c'est le libéral. C'est pour ça que Manuel Valls, social-libéral, à gauche, ça ne va pas. Social-libéral, ça ne va pas. Libéral, c'est un mot en France qu'on n'accepte pas. Il y a eu un seul ministre qui est resté, un mois ministre, il s'appelle Alain Madelin. Il fut ministre un mois, tellement il ne correspondait pas ni à la droite, ni à la gauche. À la droite, elle ne se veut pas libérale. La droite, elle est gaulliste, elle n'est pas libérale. La gauche, elle n'est surtout pas libérale. Donc, en France, il y a un mot qu'on n'est pas libéral. Donc, on a mal. Les seuls ministres qui ont tenté de faire un peu pour l'entreprise, c'est Laurent Fabius, quand il était Premier ministre en 84. Mais il n'a pas eu le temps, et puis c'est pas allé très loin. Donc, globalement, ça ne marche pas, l'entreprise et l'État en France. Et aujourd'hui, François Hollande, il essaye de rapprocher, par le pacte de responsabilité, l'État et l'entreprise. Ça va être dur. Ça va être très, très dur. S'il y arrive, chapeau. S'il n'y arrive pas, ça ne fera que confirmer la difficulté qu'a la France de faire fonctionner côte à côte l'État et l'entreprise. Or, on sait tous que seule l'entreprise crée des emplois. Voilà. C'est pas en créant des fonctionnaires qu'on va créer des véritables emplois. On crée des emplois. Donc, l'Allemagne, c'est tout à fait différent. L'Allemagne, le syndicat allemand, il est né en 1879, au même temps que le SPD. C'est-à-dire, c'est un syndicat qui accompagne le SPD. C'est-à-dire qu'il est main dans la main avec le SPD. C'est-à-dire que ce n'est pas comme chez nous, où le syndicat n'est pas avec la SFIO. Je suis étonné. J'ai toujours dit, je revois une chose qui m'a marqué infiniment et qui était en 2001, quand Lionel Jospin va rendre visite aux ouvrières de l'U en grève. Les ouvrières de l'U, elles sont là, c'est des femmes payées au SMIC, avec leur doudoune de chez Tati, donc payées pour des, même si elles, sont, elles font 35 heures, elles sont payées avec des noyaux de pêche. Et il arrive, Lionel Jospin, Premier ministre, venant du trotskisme. Donc, c'est pas venant pas de. C'est pas Laurent Fabius venant des riches quartiers parisiens. C'est un gars qui vient quand même, qui a une formation. Il sort de sa voiture, Premier ministre, jusque-là, rien à dire. Et il sort avec un Loden blanc en poil de chameau qui vaut minimum, à l'époque, on n'était pas en euros, qui vaut 15 000 francs, voilà. C'est-à-dire autour de. 2 500 euros. Et il arrive face à ses ouvrières. On a deux chocs culturels. On a la bourgeoisie et le peuple. Et ça, ça c'est typiquement français, ça. C'est-à-dire que l'histoire de la SFIO, c'est une histoire d'un parti bourgeois. Et quand on est ouvrier, on ne vote pas SFIO. On vote communiste. On vote communiste. Quand les communistes apparaissent, on vote communiste. Voilà. Et si on n'est pas, si on n'est pas politique, on va à la CGT. On va à la CGT. Et là, on a deux cultures. Et aujourd'hui, le PS s'étonne du succès de l'échec municipal. Bon, c'est un échec historique qui fait que remettre les choses sur l'oreille. C'est assez extraordinaire. Même si le PC n'existe plus, c'est le FN qui a pris la place. C'est le FN qui a pris la place. Tout. Et c'est ça qui est intéressant. Dans la politique, c'est ça. C'est-à-dire qu'en France, on est un pays... Ce matin, je lisais un texte assez extraordinaire avec les étudiants, un texte que la plupart d'entre vous connaissent, du colonel de la Roque, Les Croix de Feu, qui, vous savez tous, colonel de la Roque, a repris ce mouvement en 1932, Les Croix de Feu, mouvement d'anciens combattants, des filles d'anciens combattants. Le texte est daté de 1935, à la veille du Front populaire, où il est très hostile au Front populaire, parce qu'il est anticommuniste, le colonel de la Roque. Et 700 000 membres des Croix de Feu, 700 000 membres. Donc, le colonel, c'est pas du tout un fasciste, puisque les Américains veulent qu'il soit fasciste. Qu'est-ce qu'il a, le colonel de la Roque? Il veut, bien évidemment, une république forte. Et tout le monde sait que le colonel de la Roque, il rejoindra le maréchal, puis après, dans la résistance, puis sera arrêté par les Allemands, et il mourra à la libération en France. Les Américains et la gauche ont voulu faire passer pour un fasciste. C'est pas un fasciste, c'est un autoritaire. Et qui il a inspiré qui, disons, colonel de la Roque, le général de Gaulle. Le général de Gaulle, c'est un la Roque démocratique, ou un la Roque passé au pouvoir. Vous lire un article aujourd'hui, c'est ça la France. Et la France est un pays compliqué, archi-compliqué. On n'a pas cette page noire, on a Vichy, mais Vichy, c'est pas le nazisme. Vichy, c'est pas la Shoah. Même s'il y a des pages noires à Vichy, c'est pas l'horreur de l'Allemagne nazie. Donc, on a des pages noires dans notre histoire. On a la Vendée, qui est une page pas brillante. On a la Commune, qui n'est pas brillant comme moment. On a Vichy, qui n'est pas un moment brillant. Mais on n'a jamais atteint l'horreur de l'Allemagne, de la Shoah. Et ce matin, vous lirez un article très intéressant du maire de Carcassonne qui a perdu les élections, le maire PS. Le maire PS, il s'appelle Pérez, il est maire de Carcassonne. Moi, ce qu'il dit. Il dit, moi, les électeurs ne m'en veulent pas. Ils ne m'en voulaient pas, les électeurs, quand je faisais campagne. Ils ne m'en voulaient pas. Ils m'aimaient bien. Mais je suis passé chez des gens, ils mangent une fois de la viande par semaine. Et quand ils ont vu à la télé que Mme Bric disait à l'Élysée, c'est dégueulasse, ils ont dit, elle exagère. Parce qu'à l'Élysée, c'est dégueulasse pour les bourgeois. C'est dégueulasse pour les bobos, mais c'est pas dégueulasse. Si j'aimerais bien manger l'Élysée, moi, j'aimerais bien manger l'Élysée. Et le maire de Carcassonne dit, ça m'a fait perdre 100 voix. Et si j'ai été battu, voilà ce qu'il dit aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut s'attendre. J'ai été battu à cause de Hollande. Et il est PS. Et il n'est pas divers gauche. Il est PS. Aujourd'hui, on en est là. C'est-à-dire que la France, elle est dans un modèle qui n'a rien à voir avec l'Allemagne. Rien à voir avec l'Allemagne. On a une histoire révolutionnaire. On est un peuple révolutionnaire. On est un peuple agité. Ça, c'est sûr. La France, ce n'est pas n'importe quel peuple. Et ça, c'est... L'Allemagne, c'est un peuple qui a été fait par le fer et par le sang. Par Bismarck. Fait par le sang. On ne lui a pas demandé son avis. Si vous avez suivi Apocalypse hier, sur France 2, on voit comment les Allemands on les a envoyés au combat à Lattrick. Hein, à Lattrick. Même si chez nous, ce n'était pas brillant, eux, on les a envoyés à Lattrick. Nous, c'était pour l'Alsace-Lorraine, au moins pour l'Alsace-Lorraine. Et puis, la patrie. Jules Ferry était passé par là. Donc, l'Allemagne, c'est un pays fait par la violence. Il connaît quoi, la démocratie, l'Allemagne ? 1919-1933. 14 ans. Puis après, le nazisme, plus rien. Et je pense aux Allemands de l'Est, à partir de 1945, plus de démocratie. Ils ne connaissent que le communisme. Il faut attendre 1991 pour avoir des élections. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont connu que 14 ans de démocratie entre 19 et 33, et après, depuis 1991. Il y a quand même, c'est un peuple qui a une autre approche que nous de ce qu'on appelle le politique. En plus, en Allemagne, on a ce qu'on appelle le partenariat entreprise-syndicat. C'est-à-dire qu'en Allemagne, le syndicat est beaucoup plus important que chez nous. Chez nous, c'est très faible. Les syndiqués sont très, très faibles. On estime qu'en France, il y a à peu près 9 à 10% de syndiqués en France par rapport aux salariés, c'est-à-dire ridicule. En Allemagne, on tourne autour de quand même de 35%. 35% de syndiqués, ce n'est pas les pays du Nord. On est à 90% de syndiqués dans les pays du Nord, comme le Danemark ou les pays scandinaves. Donc, ces syndiqués, ils ont un puissant syndicat, puisqu'il est un syndicat important. Maintenant, il y a Die Linke, la gauche, qui joue un rôle syndical. Et on discute avec l'entreprise pour, bien évidemment, apporter une amélioration sociale. Si l'amélioration sociale est obtenue, chacun repart chez soi. Donc, on négocie, et si la négociation aboutit, on se sépare tout à fait calmement. Et si ça n'aboutit pas, on fait grève. Si, en France, on fait grève et on négocie. C'est-à-dire, on monte sa force. On monte sa force, voilà ma force, attention, voilà ce que je pèse. Et ça, c'est très important, parce que, avant de rentrer dans le modèle allemand, j'avais quelques chiffres, je ne sais pas si je les retrouve ici, parce que ça mériterait... Bon, c'est des chiffres un peu marrants. C'est des chiffres, en effet, où on voit que le Français boit plus de vin que de bière, et l'Allemand plus de bière. Mais on voit le nombre de jours de grève par an. En France, on a à peu près, en Allemagne, on a à peu près par ouvrier l'équivalent de 3 jours de grève par an, par ouvrier, en une moyenne allemande. En France, on tourne autour de 40 jours de grève par an par ouvrier. En moyenne, sur une longue période, hein, c'est pas sur une année, hein, sur une longue période. Alors, voyons maintenant, arrivons, nous sommes dans le cas de ce que j'appelle le cas allemand. Nous sommes en 1999, Gerhard Schröder arrive au pouvoir. L'Allemagne est au fond du trou. La croissance allemande est négative. 2000-2001, la croissance allemande est négative. L'Allemagne n'est pas du tout conquérante. L'Allemagne a un endettement. Le chômage en Allemagne tourne autour de 7-7,5%. Donc l'Allemagne ne va pas très bien du tout. D'accord ? Elle vient d'assurer la réunification, qui lui a coûté, comme j'ai dit, 1 000 milliards de Deutschmark. Donc, on peut comprendre que c'est lourd. D'accord. Et c'est là où se passe le déclic. Schröder, social-démocrate, hein, par la droite. Même si le social-démocrate, c'est quand même pas très loin du centre, c'est quand même considéré en Allemagne comme gauche. Et bien évidemment, il va mettre en place, et c'est ça, il va y avoir cet accord entre Jacques Chirac et Schröder, avec deux politiques totalement différentes. C'est-à-dire que Gerhard Schröder va mettre en place une politique de rigueur par un plan. Ce plan qu'il met en place à partir de 2002, ce plan dont l'Allemagne sort lentement aujourd'hui, on le verra, puisque aujourd'hui, on est le 2 avril, c'est aujourd'hui qu'en Allemagne est voté le salaire minimum. C'est aujourd'hui que vote le salaire minimum en Allemagne, qui est voté officiellement le salaire minimum, à 8,50 € l'heure. 8,50 € l'heure. Inférieur à la France, où il est à 9,80 € je crois, l'heure. 9,80 € l'heure. Alors, l'Allemagne met en place une politique de rigueur, blocage des salaires, blocage des prix, baisse des impôts. Voilà. Et ça, d'une manière à l'allemande. Pas de grève. Augmentation de l'âge de la retraite. L'âge de la retraite à 65 ans, voire à terme 67 ans. Pas de discussion. En échange, garantie de l'emploi. En échange, garantie de l'emploi. Pour ceux qui ont toujours un emploi, bien sûr. Et l'Allemagne va en effet fermer les yeux, parce qu'elle s'entend avec la France de Jacques Chirac, sur le déficit budgétaire. C'est-à-dire que nous sommes les deux grands pays de la zone euro. Je rappelle que l'euro est mis en place le 1er janvier 2002 et que nous devions, par ce qu'on appelle le pacte de stabilité, maintenir les 3% de déficit budgétaire. Voilà, par rapport au PIB. Mais les deux grands, France et Allemagne, s'entendant chacune pour des raisons, je présenterai la France dans quelques temps, l'Allemagne pour des raisons de gestion publique, elle ne respecte pas les 3% de déficit budgétaire. Et la France ne respectant pas, on le verra pourquoi, tous les pays de la zone euro, voyant que les deux pays qui officiellement sont leaders de l'Europe et auraient dû faire appliquer les fameux accords de Maastricht, ce qu'on appelle les critères de Maastricht, ne les respectant pas, tout le monde fait n'importe quoi. Voilà. L'Espagne, on emprunte, l'Irlande, on emprunte, le Portugal, tout le monde, la Grèce, alors on n'en parle pas, c'est la folie. Tout le monde fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut. Alors nous, la France, qu'est-ce qu'on fait ? Ben nous, on rentre dans un endettement permanent. Endettement permanent, pour faire quoi ? Pour assurer la paix sociale. Et on assure la paix sociale en versant des revenus sociaux. En permanence. Des revenus sociaux aux chômeurs. Donc on est les chômeurs les plus protégés d'Europe. On assure bien sûr des revenus sociaux, le RMI de plus en plus important, de plus en plus de gens qui en bénéficient. On met en place la couverture médicale universelle. On met en place un système de protection sociale, un des plus protecteurs de la zone euro. Donc la France, en échange, paix sociale. Malgré tout ça, les banlieues brûlent en 2005. Les banlieues brûlent en 2005. Tout l'automne, pendant deux mois, ça brûle dans les banlieues françaises. Malgré tout, on tient. On tient. Et on dit aux Français, consommez, consommez. On ne bloque pas les salaires, consommez. Et les Français consomment. Et en consommant, on maintient la croissance. Un peu d'une manière artificielle. Vu qu'on consomme surtout des produits achetés à l'étranger, on a un déficit commercial. On a un déficit commercial. Mais ça permet d'éviter de serrer la ceinture. Et on ne bloque pas les salaires, on ne bloque pas les prix, et bien on augmente lentement les impôts, soit directs, soit indirects, pour quand même, il faut quand même financer un peu tout ça. L'État ne baissant pas ses dépenses. L'État ne baisse pas. On a deux politiques totalement différentes. L'Allemagne, elle finance son économie en exportant. Et nous, en important. On a deux modèles, mais on s'entend tous les deux pour laisser les autres faire, parce que ça nous arrange de ne pas jouer les gardes-chiourmes en Europe. L'Allemagne, deuxièmement, l'Allemagne profite du fait qu'elle est l'Allemagne. Nous, je rappelle, je vous l'ai dit, si vous ne l'avez pas dit, je le répète ici, même si ça choque certains, nous avons... Si on cherche où est la responsabilité de notre situation industrielle, qui vous l'avez vu dans les chiffres, 14% de notre PIB par rapport à l'Allemagne, 25%. Aujourd'hui, il y avait un bon article qui disait pourquoi les grandes villes ont voté à gauche, parce que dans les grandes villes, il n'y a plus d'ouvriers. Voilà, dans les grandes villes, il n'y a plus d'ouvriers. Donc dans les grandes villes, il n'y a que des bourgeois, vu les loyers, vu le prix du mètre carré, et les ouvriers, ils ne vivent plus dans les villes, ils vivent dans les périphéries. Dans les périphéries. Bon, moi j'étais à Lisbonne à Noël, à Lisbonne je prends un taxi, le taxi me dit, oh ouais, alors il discutait français parce qu'il avait travaillé en Suisse, et il me dit, vous avez vu, la moitié des logements à Lisbonne sont vides, parce que c'est tellement cher, tous les Lisboètes, ils habitent en banlieue maintenant. Et maintenant, qu'arrive ? Il arrive vous, les retraités qui ont du fric, qui arrive à Lisbonne parce qu'on va passer l'hiver à Lisbonne et on loue un appartement à Lisbonne parce qu'on paye, on est à 2 heures de la France et on paye très peu d'impôts. Si on reste 6 mois à Lisbonne, on paye 30% de moins d'impôts qu'en France. Donc on se fait soigner en France, mais on va vivre en Lisbonne et en plus il y a du soleil. Voilà. Donc les étrangers arrivent et achètent des appartements et les gens de Lisbonne, qui n'ont pas les moyens, ben, ils vont vivre dans les HLM à 20 km de Lisbonne. Quoi. Et actuellement, les entreprises sont en train de tout refaire, des très beaux immeubles qui avaient été un peu abandonnés, très beaux immeubles, il y a très beaux volumes à Lisbonne, très beaux volumes. Donc, c'est un peu ça. Alors, l'Allemagne, qui est responsable de notre situation, disons-le clairement, c'est le septennat de M. Giscard d'Estaing. M. Giscard d'Estaing, à l'époque où il y avait Raymond Barre, on n'a pas vu arriver la crise avec ce qu'elle était la crise. C'était une crise, pas simplement une crise comme on a connue, c'est une crise qui remet en cause le modèle de production européen, puisque c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les nouveaux pays industriels, qui arrivent et qui vont être rattrapés et dépassés dans les années 80 par la Chine qui commence à arriver. La mondialisation est là. Ce qui veut dire qu'on se spécialise nullement. La France est bonne à peu près partout. C'est-à-dire, elle est bonne, elle est excellente nulle part. C'est-à-dire qu'on fait un peu de tout en France. On fait un peu de tout. Tandis que l'Allemagne, soit liée à un choix, mais liée aussi à des pôles déjà qui avaient mis en avant, elle se privilégie dans 3 domaines. L'automobile, la chimie, la mécanique. Et c'est dans ces secteurs-là, donc avec la mondialisation qui arrive, la France, vu qu'elle fait d'automobiles, disons, moyenne gamme, la France, bah, elle est concurrencée par les gens qui font des moyennes gammes. Il y en a partout, du moyenne gamme. Il y en a partout, maintenant. Hein. Il y en a en Corée, il y en a, en effet, en Espagne, en Italie. Du très haut de gamme, du très haut de gamme, il n'y en a pas beaucoup, hein, à part l'Allemagne. La France ne produit plus une seule machine-outil. Plus une seule machine-outil n'est fabriquée en France. Moi, j'ai un ami qui est imprimeur et qui vient de vendre, parce qu'il a 70 ans, il cherchait à vendre et il a vendu. Ben, quand il a acheté, l'année dernière, il est allé acheter encore une rotative, et il est allé en Allemagne, acheter une rotative en Allemagne, pour l'imprimer. Bon, il m'a dit, il n'y a qu'en Allemagne. Bon, donc, nous, on n'a pas. Et depuis, M. Giscard d'Estaing, c'est-à-dire depuis les années 60, fin des années 70, c'est-à-dire bientôt plus de 40 ans, on fait des dossiers, des enquêtes, des rapports, au moins, une fois j'avais calculé, au moins 15 rapports, qui ont tous terminé dans les tiroirs, sur la réindustrialisation de la France. On n'a jamais rien fait. Et ça s'est passé comme ça. Donc, alors pourquoi l'Allemagne tient bon alors qu'elle a l'euro, et nous on a l'euro, et on se plaint. Et l'Allemagne ne se plaint pas de l'euro. Alors voilà, l'explication est assez simple. L'Allemagne, elle est située au centre de l'Europe. Elle fait fabriquer une partie des pièces détachées dans les pays de l'Est, qui n'ont pas l'euro. Par exemple, la Tchéquie, la Pologne, la Hongrie. Donc, ce sont des pays à monnaie faible. L'euro est une pays à monnaie forte. Donc, elle achète les pièces détachées en monnaie forte qu'elle paye à des pays à monnaie faible, donc qui ne reviennent pas très cher. Elle les importe en Allemagne et elle les monte sur ses usines allemandes. Et elle met sur les produits « Made in Germany ». C'est « Made in Germany », c'est du solide. Et on peut dire que le Porsche Cayenne est fait à 65% de pièces fabriquées en Tchéquie. Voilà. Et il est Porsche Cayenne. Ou alors Porsche Cayenne. Il n'y a pas mieux, hein, pas mieux que le Porsche Cayenne. Donc, une automobile qui vaut quand même dans les 70 000 euros. Ça veut dire, quand vous achetez une automobile à 70 000 euros, vous avez une marge pour le constructeur qui est autre chose quand vous vendez une Dacia. Quand vous vendez une Dacia, la marge du constructeur est faible. Oui, à bientôt. Je ne dirai rien. Même si les Allemands me questionnent. Hein. Voilà l'explication. Et une fois qu'ils ont monté ces produits, ils les vendent en monnaie forte. Ils les vendent en monnaie forte et ils ont gagné sur tous les tableaux. Le problème, c'est que leur excédent, ils l'ont fait avec l'Europe. Tous les pays européens sont déficitaires parce que l'Allemagne est excédentaire. Et aujourd'hui, vu qu'ils ont pompé l'Europe, l'Europe n'a plus de sous, eh bien, l'Europe ne les intéresse plus. Ce qui les intéresse, c'est bien évidemment le monde, la Chine, le Brésil, la Russie. C'est-à-dire où aujourd'hui, il y a encore du potentiel de consommation. Ah, c'est bien pour ça qu'on espérait, quand on a mis en place l'euro, que les excédents allemands se réinvestissent en Europe. Eh bien non, ils ne se réinvestissent pas en Europe. Ils se réinvestissent dans le monde. Parce que l'Allemagne est devenue une puissance mondiale. Et aujourd'hui, l'Allemagne fait un excédent qui est 6%, un excédent commercial qui représente 6% de son PIB. Or, l'Europe avait dit qu'on ne doit pas dépasser 6%. Mais, alors, l'Europe, puisque vous avez lu comme moi que l'Europe est en train de visser les boulons à la France en disant qu'il faudra respecter votre déficit budgétaire, ce n'est pas parce que vous changez de Premier ministre qu'il faudra jouer encore les larmoyants, il va falloir respecter les 3%. Et on a dit à l'Allemagne, il faudrait voir à moins d'excédents. Et l'Allemagne a répondu, on ne fait pas jouer le Bayern de Munich en deuxième division. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on ne va pas faire jouer le Bayern avec l'équipe de, je sais pas, de Saint-Rémy. Quoi. Voilà. Donc c'est évident. Ouais. Moi, Chalon, je ne la connais pas. C'est pour ça que j'ai pris Saint-Rémy pour ne pas vous vexer. Hein. Donc, donc, on a une situation assez affolante. L'Allemagne est... Alors, pour quand même corriger et ne pas terminer, nous, on a fait de mauvais choix industriels. On ne corrige pas des mauvais choix industriels en un quinquennat. Et vu qu'on n'a jamais rien fait, on a beaucoup parlé, beaucoup écrit, mais on n'a rien fait, ça ne veut pas dire qu'en France, il n'y a pas de compétences. Ce que je disais aujourd'hui, c'est qu'on voudrait faire revenir les 2 millions de jeunes Français hyper diplômés qui sont partis à l'étranger. Le problème, c'est qu'ils gagnent en moyenne 40 000 euros par an. En moyenne. Or, en France, s'ils rentrent en France, ils gagneraient 25 000 euros. Donc, on reviendra pour mes vieux jours. Je reviendrai pour mes vieux jours. Je viens m'installer en France, parce qu'en France, pour la qualité de vie, c'est quand même la France qui a de mieux. Pour la qualité de vie, c'est la France. Ça, c'est sûr. Mais pour les salaires, pour l'emploi, c'est pas la France. Hein. C'est pas la France. Alors, l'Europe, elle essaye de guider, mais vu que l'Allemagne exerce un tel poids, elle est le seul pays qui a des réserves, parce qu'aujourd'hui, si on tient, si la France trouve à emprunter régulièrement, parce qu'il ne faut pas qu'une partie, on peut dire que l'État français, autour du 14 du mois, n'a plus un sou. Donc, pour payer les fonctionnaires, à la fin du mois, l'État français emprunte. On emprunte. On emprunte régulièrement. Et si on emprunte à un bon taux qui tourne autour de 2,20%, alors que l'Allemagne emprunte à 1,70, quand on emprunte, c'est que l'Allemagne nous garantit. L'Allemagne nous garantit. Si l'Allemagne ne nous garantissait pas, on serait comme l'Italie. On serait obligé d'emprunter à 5,5. C'est parce que l'Allemagne n'a pas intérêt qu'on s'effondre. L'Allemagne a intérêt que la France s'en sorte. C'est son jeu que l'Allemagne, que la France s'en sorte. Le but de l'Allemagne, ce n'est pas de nous enfoncer. Le but de l'Allemagne, c'est qu'on se porte beaucoup mieux. Ça l'arrangerait, l'Allemagne, qu'on se porte beaucoup mieux. Pour un véritable couple franco-allemand, il faudrait que la France se porte mieux. C'est pour ça que l'Allemagne, elle nous booste un peu en disant « Allez, il faudrait faire vos réformes. » Et quand François Hollande a annoncé le pacte de responsabilité, l'Allemagne a dit « Bravo, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Bravo. » Moi, j'ai tenu un bureau de vote à Lyon. C'est la première fois que je voyais dans le dépouillement des votes. Bon, j'ai tenu régulièrement un bureau de vote. Bon, en tant qu'historien, je travaillais sur les bulletins de vote dans les années 30. Il y avait des bulletins de vote qu'on a aux archives qui est marqué « Retourne chez les soviets, sale bolchevique ». Voilà ce qu'il y avait marqué dans les années 30. Mais là, il y avait marqué « Tous pourris ». Il y avait énormément de bulletins marqués « Tous pourris ». Vous valez tous pas cher les uns, pas plus les uns que les autres. Et j'étais étonné. Sur un bureau de vote, sur 524 votants dans mon bureau de vote, sur 872 inscrits à Lyon, parce que j'habite dans le deuxième arrondissement, il est évident que 524, il y avait quand même autour de 35 bulletins nuls. Bulletins nuls, ce qui, ma foi, est quand même assez, assez rare, hein, assez rare, surtout pour une élection municipale. Pour une élection municipale. Oui, oui. Bon, est-ce qu'à moi, il y a une exaspération, Alors, où sont les problèmes allemands? Nous, les problèmes, on les connaît, nos problèmes. Nos problèmes, c'est la difficulté à réformer la France, la difficulté de réformer, disons, l'économie française. Ça, c'est dur. Réformer la société, on l'a vu, c'est peut-être là-dessus que François Hollande a l'air d'avoir laissé sa trace, mais on sait que M. Giscard d'Estaing a fait pareil. IVG, majorité à 18 ans, c'est ce qui reste. Quand on dit, qu'est-ce que vous vous souvenez de M. Giscard d'Estaing? Ben, tout le monde dit, IVG, majorité à 18 ans, plus personne ne se souvient ce qu'a pu faire M. Giscard. Comment?
Autorité parentale.
Oui, autorité parentale.
Parce qu'avant, c'était le chef de famille.
Oui, c'est vrai que les femmes... Madame, elle s'en souvient encore mieux. Donc, oui, oui. Donc ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qui restera de François Hollande? On dira le mariage homosexuel. Ça ne fera pas une réforme fondamentale du fonctionnement de la France. Ça, c'est sûr. Donc la France, elle a du mal à se réformer. L'autre jour, il y avait une très bonne analyse et qui m'a semblé pertinente. Le 6 février de 1934, qui est une date historique en France fondamentale, quand les ligues de droite manifestent contre la République pourrie, du moins qu'ils estiment pourrie, corrompue, et qui défilent place de la Concorde et qu'il y a des morts, et que ça faillit tourner peut-être au renversement de la République, même ça, il ne faut pas exagérer, ça c'est la gauche qui a voulu que ça soit comme ça, mais c'était une journée, on appelle ça une journée contre-révolutionnaire, qui a échoué. Et l'autre jour, j'ai pas noté la personne qui parlait, j'ai trouvé très pertinent ce qu'il disait. Il disait que quand on va mal, et la France va très mal, morale très bas, moi je pensais que quand ça va mal, on va vers la révolution. On va vers la révolution. Au sens vers l'affrontement, vers la rue. Et la personne qui parlait disait, quand ça va mal, quand il y a une politique de rigueur, une politique, c'est ce qu'on reproche au gouvernement, et de ne pas changer de cap et de faire une politique en faveur de l'entreprise et pas en faveur des Français, et la personne qui parlait disait, on va vers une politique, vers un mouvement, non pas comme je disais révolutionnaire, vers un mouvement contre-révolutionnaire. Et aujourd'hui, quel est le parti contre-révolutionnaire? Le FN, bien sûr. Le FN est un parti contre-révolutionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un parti républicain. Mais dans la lecture d'aujourd'ui, il a une démarche contre-révolutionnaire. Et moi, j'ai joué sur l'idée qu'on irait vers la révolution. Et on va peut-être plutôt vers la contre-révolution. Vers la contre-révolution. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, l'Allemagne, quels sont les problèmes de l'Allemagne? Les problèmes de l'Allemagne, c'est un, le vieillissement. L'Allemagne est confrontée, mais véritablement, à un vieillissement énorme. Pourquoi? Parce que les femmes, les jeunes femmes, ne font plus d'enfants, compte tenu qu'en Allemagne, il y a une absence de crèche. Une absence de crèche énorme. Ce qui veut dire que la politique de M. Schröder est une politique de non-investissement public. Il n'y a pas eu d'investissement public. Donc, on peut dire que les autoroutes allemandes sont en mauvais état. Il suffit d'aller en Allemagne. On vous dit toujours en Allemagne, tu peux rouler à la vitesse que tu veux. Tu ne roules pas du tout parce qu'il y a des travaux tout le temps. Il y a des travaux tout le temps. Tu es toujours coincé par des travaux et on ne roule pas à 200 comme on pourrait le penser en disant, on va se faire plaisir, je loue une Mercedes, je roule à 200. Ben non, on ne roule pas comme ça en Allemagne. Deuxièmement, il y a des infrastructures très, très vieillottes en Allemagne. Et puis, il y a des choses qui manquent dans le domaine parce que l'État n'a pas investi. L'État n'a pas investi. Parce que l'État joue la rigueur financière. Parce que l'Allemagne arrive au déficit zéro. Cette année, elle va arriver au déficit zéro. Alors que nous, on va être à 3,9 encore. À 3,9 de déficit. Donc, premièrement, le vieillissement. Le vieillissement est terrible. Ce vieillissement a amené l'Allemagne à faire venir des immigrés. Or, l'Allemagne n'a jamais colonisé. Du moins, elle a colonisé jusqu'en 1918. On lui a piqué ses colonies. Donc, l'Allemagne, elle n'a pas de passé colonial. Elle n'a jamais eu de troupes coloniales, l'Allemagne. Jamais de troupes coloniales. Donc, elle n'a pas de passé colonial. Donc, l'Allemagne, les Turcs, en plus, qui viennent, n'ont jamais été colonisés. En plus, c'est un peuple qui n'a pas été colonisé. C'est un peuple colonisateur, les Turcs. Donc, et les Turcs sont très, très fiers. Très, très fiers d'un peuple qui n'est pas colonisé, qui va travailler dans un pays. D'où ces Turcs refusent de parler allemand. Et aujourd'hui, il y a une cohabitation très difficile en Allemagne entre ces Turcs communautaristes et qui jouent la carte turque tout en étant allemand. Et le problème allemand, et il y a un gars qui s'appelle Thilo Sarrazin, qui est un gars du SPD, pas du tout un membre de... et qui a écrit un livre, « Le jour où l'Allemagne n'existera plus ». Et il montre que les Allemands ne faisant plus de gamins et les Turcs en faisant cinq, un jour, il n'y aura plus d'Allemands. Il n'y aura que les Turcs. Et le SPD, dans la grande coalition qui s'est faite, qui a mis trois mois pour se faire, pour se mettre d'accord, le SPD demandait que les étrangers puissent avoir la double nationalité. C'est-à-dire qu'on puisse être allemand et turc. En Allemagne, c'est interdit, ça. En Allemagne, on ne peut être qu'allemand ou turc. Donc, Mme Merkel a refusé ça. Troisième problème allemand, en Allemagne, il y a énormément de gens qui vivent avec des revenus hyper faibles. Entre 6 millions à 7 millions de salariés qui gagnent des sommes ridicules, qui sont autour de 600 euros par mois. 600 euros par mois. Surtout des gens venant de l'Est. Par exemple, pourquoi la viande de Bretagne, le cochon de Bretagne, est-il tué dans des abattoirs allemands et qu'après il rentre en France, ce qui a fait les bonnets rouges et qui ont pour la première fois voté FN, première fois que la Bretagne vote à droite dure. Jamais la Bretagne a voté à la droite dure. Simplement pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de salaire minimum en Allemagne et un gars d'abattoir, un Roumain qui travaille aux abattoirs allemands, gagnait 3 euros de l'heure. Alors que dans les abattoirs français, charges sociales comprises, on travaille à 13 euros l'heure. Donc, avec aujourd'hui l'instauration du salaire minimum en Allemagne, on peut penser, pas tout de suite, il sera mis en place dans les années à venir, que l'Allemagne va avoir un million de chômeurs de plus. Donc, vieillissement, immigration, ça, vieillissement, nous, moins, beaucoup moins vieilli que l'Allemagne, on est un des pays les plus jeunes d'Europe. Immigration, ça, c'est la même chose que les Allemands. Des très petits revenus, bah, nous, en France, il y a quand même, à part les gens qui travaillent clandestinement, tous les gens qui travaillent ont en minimum le salaire minimum, hein, le SMIC, qui est quand même un salaire un peu plus conséquent, je ne dis pas on vit bien, mais un peu plus conséquent. Et puis, et je termine là-dessus, avant de... Je vois que les responsables commencent à se lever, il faut que je me dépêche. Attendez, messieurs les Allemands, un peu de patience. Et ce qui est très intéressant, c'est l'Allemagne est en train aujourd'hui de changer de politique au niveau international. L'Allemagne est un pays qui n'intervient pas et qui ne cherchait pas à intervenir. L'Allemagne ne voulait pas sortir de chez elle. Elle ne veut pas sortir. Quand on est intervenu en Libye, l'Allemagne a dit non. Quand on est intervenu au Mali, l'Allemagne a dit non. Quand on est intervenu en Centrafrique, l'Allemagne a dit non, même si on ne lui a pas demandé. Elle aurait dit non. Et pourtant, l'Allemagne, aujourd'hui, est en train de réduire son armée. L'armée allemande faisait à peu près 230 000 hommes. L'armée allemande va faire plus que 170 000 hommes. Donc des forces bien meilleures, bien plus organisées, plus modernes. Et l'Allemagne, aujourd'hui, entretient à peu près 7 000 hommes à l'étranger. Par exemple, en Bosnie et surtout au Kosovo, il y a des forces allemandes. Et on en voit un peu partout, puisque l'Allemagne se prépare à avoir 10 000 hommes capables d'être envoyés à l'étranger. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne, qui était un pays muet au niveau des relations internationales, est un pays qui est en train de se réveiller. On le voit avec le cas russe, aujourd'hui, où elle a joué un rôle essentiel, même si aujourd'hui le dialogue a lieu entre Obama et Poutine, et que l'Europe n'est pas invitée au dialogue entre Obama et Poutine. Mais il ne reste pas moins que quand Poutine téléphone, il téléphone à Merkel. Il ne téléphone ni à Hollande, ni à Cameron, il téléphone à Merkel. Et d'abord, et quand il y va, quand il est très en forme, Mme Merkel dit, je sais quand Vladimir est en forme, il me dit « Bonjour Angela » en allemand. Voilà. Parce qu'il a travaillé, n'oublie pas que Poutine a été agent secret en RDA. Il était agent du KGB en RDA, donc il parle l'allemand. Donc il lui dit en allemand. Donc ce qui est intéressant, c'est que l'Allemagne est tout à fait l'acteur des négociations. Et elle ne veut pas, si on ne prend pas de sanctions fortes contre la Russie, même si l'autre jour les Américains ont bloqué la Mastercard en Russie, et il y a eu 400 000 Russes qui n'ont pas pu tirer un sou. Donc Les Russes ont vu que la capacité de nuisance des Américains, si les Américains voulaient, les Russes sont coincés. Ils sont coincés. Car financièrement, les Russes ne tiennent pas le coup. Donc la victoire, je tiens à dire que moi, personnellement, je n'ai rien contre, disons, je suis plutôt ami du peuple russe, qui est un peuple qui a beaucoup souffert. Je rappelle que quand même, la Crimée est fondamentalement russe. C'est quand même Khrouchtchev, qui est un Ukrainien, qui l'a donné à l'Ukraine en 1954. Donc, il ne faudrait même pas exagérer que Poutine soit un garçon qui ne respecte pas, les règles internationales, c'est sûr. Mais je rappelle que Poutine est un homme du retour de la grandeur russe. Donc, tout ce qu'il peut faire pour revenir à la grandeur russe, pour faire oublier l'humiliation des années 90, il le fera. Donc, là-dessus, on est dans un monde assez curieux. Bon, je m'arrête là, puisque je vois qu'il y a un demandé. Bon.
Baudelaire.
Comment ?
C'est une conférence sur Baudelaire.
Ah, bah alors c'est parfait. Alors, c'est pas moi qui vais interrompre Baudelaire.